Bonjour Patrick Mignola.
Bonjour Eric Delvaux.
Vous êtes président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, le Modem qui sera aujourd'hui en congrès, on va y revenir. Vous êtes aussi député de Savoie. À propos de Savoie, de la Savoie et de la montagne en général, la décision du gouvernement de fermer les remontées mécaniques pour Noël ne passe toujours pas. Êtes-vous à l'aise au Modem avec cette décision de la part d'un gouvernement que vous soutenez ?
Vous savez, c'est évidemment une décision extrêmement douloureuse pour les Savoyards, pour tous les amoureux de la montagne, ça va de soi. Aujourd'hui, on doit surtout expliquer que la montagne est toujours ouverte, définir ce que sont les activités qu'on peut continuer à y pratiquer. Il y a beaucoup de sports aujourd'hui qu'on peut encore pratiquer à la montagne et elle reste accueillante pour y pratiquer le sport, pour avoir le lien avec la nature. Il faut qu'on définisse surtout les conditions de réouverture le plus rapide possible quand on aura fait baisser la tension sanitaire, la tension hospitalière, parce que vous savez que notamment dans les Alpes, nous avions été les départements les plus touchés par le Covid. Et enfin, lancer un grand plan de soutien, parce que cette semaine de Noël perdue pour tous les socioprofessionnels de la montagne, c'est une semaine qui devra être compensée par l'État.
Mais je n'ai pas bien compris au Modem si vous, Patrick Mignola, député de Savoie, vous souteniez complètement cette décision du gouvernement et de l'exécutif.
Ah non, mais il faut que les choses soient très claires. Vous savez, moi, je fais pas partie des cyniques. Je fais partie des lucides. Et autant que vous pouvez avoir de l'inquiétude, voire de la colère chez les socioprofessionnels, et ça s'entend parfaitement, autant les initiatives politiciennes qui veillent aujourd'hui plutôt à exciter les situations, à nourrir les colères, au fond, à prendre les montagnards pour de la chair à élection, moi je ne fais pas partie de cela.
Vous faites allusion à Laurent Wauquiez quand il parle d'une décision illogique et illégale ?
Ben exactement. Aujourd'hui, vous savez, faire du contentieux judiciaire, aller devant le Conseil d'État pour laisser espérer qu'on pourrait quand même obtenir une ouverture, au fond, c'est dépenser de l'énergie qu'on devrait mettre plutôt à définir ce que sont des mesures de soutien utiles pour les montagnards. On a des fonds de solidarité qui doivent être triplés, déplafonnés. Moi, c'est ce que j'ai proposé au Premier ministre, parce qu'on a des activités saisonnières, et donc il faut forcément que les fonds de solidarité soient supérieurs. Il faut accompagner les travailleurs saisonniers, il faut accompagner les collectivités locales, qui vont forcément avoir beaucoup de pertes, notamment quand elles gèrent elles-mêmes les remontées mécaniques. Il faut soit capable de travailler sur le chômage partiel.
Vous êtes en train de nous dire qu'il y aura bien des compensations financières spécifiques à la fermeture de ces remontées mécaniques au ski ?
En tout cas, c'est le travail auquel je consacre toute mon énergie auprès du Premier ministre, plutôt que faire de l'agitation politicienne, plutôt que faire du contentieux judiciaire, plutôt que de laisser de faux espoirs. Moi, je pense qu'il faut plutôt s'occuper des Savoyards, s'occuper des montagnards et veiller à ce que dans les premiers jours de janvier, on puisse réouvrir et que l'économie de la montagne reste protégée.
Enfin, cela dit, il n'y a pas que Laurent Wauquiez, même s'il est à l'initiative de cette saisine du Conseil d'État en référé. Il y a tout de même une quinzaine de départements de montagne et au moins 5 régions. Les critiques viennent de tous bords politiques. Est-ce que ça ne risque pas d'éclater politiquement à la figure du gouvernement cette histoire ?
Vous savez, il ne faut pas regarder les effets électoraux d'une décision. Il faut regarder les effets sur les femmes et les hommes qui vivent à la montagne. Et c'est auprès d'eux qu'il faut travailler. Évidemment que la décision peut paraître un peu incompréhensible, vu de Savoie comme vu de Paris. Parce que ce n'est pas sur un télésiège qu'on peut attraper le Covid. Ça va de soi. Quand vous êtes à la montagne, vous passez simplement pas beaucoup de temps sur le télésiège. À partir de 17h, vous êtes dans votre petit appartement, un peu nombreux, et parce que vous êtes à la montagne, en général, il fait froid, vous vivez pas fenêtre ouverte.
Et la proximité et donc, n'est pas bonne.
Bah, évidemment, dans ce cas-là, le brassage de population fait que le virus se diffuse beaucoup plus. Pourquoi avons-nous, en Savoie et en Haute-Savoie, été les départements les plus touchés ? Il n'y a pas de grande métropole, il n'y a pas de grand brassage de population, il n'y a pas de grand rassemblement qui aurait été susceptible de provoquer des clusters. C'est parce que nous, on a pris la vague de froid de l'hiver forcément un peu plus tôt que les autres. On a vécu un peu plus enfermé entre nous et sans pour autant faire les imbéciles et baisser la vigilance, et ben le virus s'est propagé plus qu'ailleurs.
Mais donc, Patrick Mignola, oui. Vu d'Allemagne par exemple, quand vous avez certainement eu écho de cet article qui est paru à la mi-novembre dans un article de Die Zeit qui parle de la France comme d'un absurdistan autoritaire et qui parle d'un verrouillage qui est tellement répressif que même les règles censées tombent en discrédit.
Vous savez, moi, je constate une chose, parce qu'on a beaucoup montré l'Allemagne comme un exemple dans la gestion de la crise sanitaire, qu'aujourd'hui, la situation sanitaire en Allemagne est bien pire que la situation française, que pour la première fois, Berlin est une capitale qui est plus touchée par le Covid que ne l'est Paris, et au fond, plutôt que se faire se faire concurrence. Il faut plutôt qu'on soit en cohérence entre les différents pays. Et je constate que l'Allemagne, l'Italie et la France ont pris exactement la même décision s'agissant des stations de sport d'hiver, que l'Andorre et l'Espagne sont en train de prendre la même décision. Reste la Suisse, à laquelle nous demandons d'avoir le même esprit de responsabilité.
Bah pour le moment, c'est pas le cas.
Y avoir, bah oui, et c'est précisément ce pourquoi le président de la République a pris cette position assez courageuse cette semaine, d'appeler les Suisses à un esprit de responsabilité. D'abord, il pourrait y avoir une forme de concurrence déloyale avec les stations de sport d'hiver françaises. Et surtout, il ne faudrait pas que des clusters soient provoqués en Suisse, puis reviennent chez nous. Là, je parle vraiment en Savoyard et en Montagnard. Imaginez que nous réimportions le Covid dans les Alpes parce que la Suisse serait restée trop largement ouverte. On prendra une troisième vague et dans ce cas-là, on pourra même pas rouvrir pour les vacances de février. Moi, j'ai aucune intention que les responsabilités de quelques-uns pour continuer le business ramènent une troisième vague et nous ramènent ensuite à l'âge de pierre.
Patrick Mignola, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. L'actualité, ça concerne aussi les nouvelles manifestations prévues aujourd'hui contre la loi de sécurité globale et son article 24, pas seulement, sur l'image des policiers. Pourquoi est-ce que votre majorité s'entête à vouloir faire passer un texte dont on a visiblement pas toujours bien saisi l'opportunité? L'opportunité, l'utilité.
Vous avez constaté qu'au Modem, nous avons voté ce texte sans enthousiasme débordant, on va le dire comme ça, parce que on le faisait sur le principe d'une réorganisation de nos services de sécurité, du soutien à apporter à nos forces de l'ordre. Pour autant, sur cet article 24, nous en avions nous-mêmes proposé la suppression, voire la réécriture. Moi, je me réjouis qu'on ait pris cette décision de responsabilité.
Vous faites partie d'ailleurs de ceux qui vont réécrire complètement cet article 24. Que va-t-il en rester au final?
Vous savez, je pense que le péché originel de cet article 24, c'était de faire référence à la loi de 1881, celle de la liberté de la presse, qui protège la presse, mais qui, au fond, protège l'ensemble de la société.
Bon, ça, c'est résolu, on va le sortir de la loi de 1881. Donc, on a changé de ton,
Et pour revenir au code pénal, vous savez, sur le code pénal, vous avez deux sources possibles pour qu'il y ait une meilleure protection des forces de l'ordre dans leur vie privé et familial. Vous avez soit la mise en danger de la vie d'autrui par diffusion de fausses informations, soit le cyberharcèlement. C'est sur ces bases qu'il faut pouvoir travailler. De quoi parle-t-on ? Nous parlons de la diffusion de votre nom, de celui de votre conjoint, de celui de vos enfants, de l'adresse de l'école de vos enfants, sans d'ailleurs pour autant appeler à quelque intimidation ou menace que ce soit, mais simplement en le livrant à la vindicte populaire des réseaux sociaux. Donc il y a aujourd'hui un arsenal qui existe dans le code pénal, avec un angle mort, c'est que cette seule diffusion ne peut pas être répréhensible quand elle n'est pas accompagnée d'une menace ou d'un appel à la violence. Il faut régler ce problème-là, sans toucher en aucune manière à la liberté de la presse, parce que il faut qu'on garde ce bon équilibre entre la protection due à ceux qui nous protègent, et évidemment la liberté de filmer, d'informer.
Mais ça va être compliqué, Patrick Mignola, puisque même les experts de l'ONU dénoncent non seulement l'article 24, mais l'ensemble du projet de loi sur cette sécurité globale. Texte incompatible, selon les experts de l'ONU, incompatible avec les lois internationales des droits de l'homme. Comment réécrire une loi dans ces conditions ?
Moi, j'ai fait partie de ceux, lorsque le gouvernement a proposé qu'un nouveau comité d'experts, comme vous dites, soit chargé de re-rédiger cette loi, ou de re-rédiger cet article 24, ou de re-rédiger l'article 22, à rappeler une chose assez simple, c'est que c'est le Parlement qui fait la loi. Et nous avons beaucoup travaillé à trouver l'équilibre. Parce qu'à chaque fois que nous venons sur des sujets régaliens, il faut que nous puissions progresser pour améliorer la sécurité des Français, mais que par-dessus tout, nous protégions leur liberté et les libertés publiques en général. Je comprends qu'il puisse y avoir des propos engagés, des propos militants, ils sont tous légitimes en démocratie, mais c'est au Parlement de faire la loi. C'est pas à des commentateurs extérieurs ou à des comités de technocrates ou
d'experts
de technologues
de l'ONU, y compris.
D'écrire la loi.
Sur ce
experts
gros
de
ratage.
L'ONU y compris, vous savez, on écoute tous les experts de l'ONU, des syndicats de policiers, et à un moment, la synthèse doit être opérée par les parlementaires, c'est quand même bien eux les représentants du peuple, et c'est au nom du peuple que nous faisons la loi.
Ce gros ratage de cette ancienne idée, donc il y a quelques jours, d'une commission indépendante chargée de réécrire l'article, le président Macron a convoqué Jean Castex, Gérald Darmanin, les présidents de groupe de sa majorité, donc vous en étiez dans le bureau. Est-ce qu'il vous semble que la colère présidentielle a calmé les ardeurs de Gérald Darmanin dans ce dossier ?
J'ai constaté en effet qu'il y avait une forme de colère froide, puisque le président de la République, légitimement, s'est demandé comment on avait pu en arriver là. Cette majorité n'est pas la majorité qui s'est engagée en politique depuis des années, voire des décennies, pour certains d'entre eux, c'est le cas du mouvement démocrate, pour réduire les libertés publiques. Et laisser penser que, aujourd'hui, dans le balancier de la société, nous serions les sécuritaires illibéraux qui pourraient porter atteinte à la liberté d'informer, c'était évidemment totalement orthogonal avec ce que nous faisons et ce que nous sommes.
Est-ce que Jean Castex doit se méfier des ambitions de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, un homme trop habile, dit de lui même François Bayrou?
Mais, vous savez, quand on discute de la majorité parlementaire, de la majorité macronienne en général, on dit toujours que finalement on manque de profondeur de banc, on manque d'épaisseur, on est parfois des amateurs. On va pas se plaindre aujourd'hui d'avoir un certain nombre de professionnels. Que le ministre de l'Intérieur ait envie de protéger les policiers, c'est normal. Que le ministre de la Justice ait envie d'équilibre entre ce que nous faisons pour les forces de sécurité et l'état de droit que nous devons absolument préserver, c'est logique. C'est le président de la République qui en assure l'équilibre, ce sont les parlementaires qui le traduisent.
Ce que vous nous dites là, Patrick Mignola, c'est un petit peu le « en même temps », non ?
Mais exactement, parce que dans un pays, c'est comme ça qu'on doit gérer aujourd'hui. Le pays, il est fragile, il est fébrile. Et d'ailleurs, moi, j'appelle les uns les autres à bien réfléchir, à ne pas multiplier les textes qui peuvent nuire à l'apaisement dont nous avons tous besoin.
Cette société,
elle vit avec deux peurs depuis longtemps déjà, la peur terroriste, sécuritaire, et la peur climatique. On y a ajouté une crise sanitaire, ses conséquences économiques et sociales. Cet équilibre, cet en même temps, il est probablement plus nécessaire que jamais.
Jean Castex n'a pas de parti, donc pas de troupes derrière lui, a priori pas d'ambition personnelle non plus pour l'avenir. Est-ce qu'il est en train de devenir, le Premier ministre, une cible facile sur l'échiquier politique, y compris au sein de son gouvernement ?
Oui, je vois bien que s'opère une sorte de fête à la Saint-Castex en ce moment, parce que le Premier ministre prend toutes les formes d'attaque en tout genre. Moi, je ferai jamais partie de ceux qui attaquent le capitaine dans la tempête, surtout quand c'est une triple tempête sanitaire, économique, sociale. Aujourd'hui, il fait le boulot, nous avons des résultats.
Et de la part de
Bruno
Le Maire ?
Nous sommes le pays qui fait baisser le plus la tension sanitaire. Nous sommes le pays qui va pouvoir déconfiner le plus rapidement. Nous sommes le pays qui va pouvoir faire reprendre les universités, qui va pouvoir reprendre la vie économique, la vie sociale dont nous avons tant besoin. Donc c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'attaques, c'est beaucoup d'incompréhension, mais à la fin il y a des résultats.
Si vous le permettez, nous sommes aussi le pays où il y a eu une mission d'information dotée des pouvoirs d'une commission d'enquête, 6 mois d'audition, un rapport de 200 pages et 30 solutions qui sont proposées. Et les conclusions pour l'instant quant à la gestion du Covid, c'est l'absence de préparation au risque pandémique, c'est le pilotage qui a été axé sur le ministère de la Santé et qui a été défaillant, et c'est un système de soins hospitalo-centré. Et on dit, ce qui en ressort, c'est aussi qu'on aurait pu éviter un deuxième confinement, si on avait mieux géré les choses.
J'ai participé à cette commission d'enquête parlementaire, il m'est même arrivé de la présider. Puis-je vous dire que...
Mais tout ce que vous voulez.
Elle ne m'est pas paru... totalement impartial. C'est d'abord, il y a quelque chose d'un peu surprenant que de tirer des conclusions d'une crise avant même que la crise ne soit terminée. C'est un peu comme si on avait fait un rapport parlementaire en 1916 sur la stratégie militaire de France dans la Première Guerre mondiale.
Non, mais c'est une enquête qui a duré des mois.
Cette enquête a été conduite, vous le savez, très largement partagée entre tous les groupes, avec de nombreux groupes d'opposition, ou avec un rapporteur, Éric Ciotti, pour lequel j'ai du respect, mais qui avait pour ambition principale de mettre en cause personnellement, sur un certain nombre de sujets, des ministres qui étaient aux responsabilités lors du premier confinement. Vous savez, moi, face à un problème, je pense qu'il ne faut pas trouver des coupables, qu'il faut trouver des solutions. Et dans cette crise, c'est pas seulement la question de telle ou telle personne, de telle ou telle réaction. Moi, j'ai assisté au printemps à des arbitrages qu'il fallait faire toutes les 10 minutes, sur tous les sujets, et qui concernaient tous les Français. Et au fond, c'est facile, sur un Aventin parlementaire, de dire de loin, il n'aurait pas dû faire ci, il n'aurait pas dû faire ça, et ouvrir éventuellement des perspectives judiciaires.
Patrick Mignola.
Après cette analyse. Aujourd'hui, il faut plutôt travailler et se poser la question de qu'est-ce que ce pays a fait ou n'a pas fait depuis 15 ans. Vous êtes, pour faire face aux crises pandémiques.
Et je vais le rappeler, Patrick Mignola, vous êtes aussi le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Le Modem qui sera en congrès aujourd'hui. Quel est le positionnement du Modem par rapport à l'exécutif qu'il soutient, sachant que vous ne souhaitez pas apparaître comme un soutien godillot? Mais comment faites-vous? Au final, vous votez les lois?
D'abord, on fait partie d'une majorité, et donc assez naturellement, nous agissons loyalement. Mais on peut être loyaux sans être godillot, en ayant une voix singulière dans cette majorité.
Mais vous êtes quand même un allié essentiel pour Emmanuel Macron.
C'est grâce à vous qu'il a la majorité au Parlement.
En effet, mais au-delà des aspects numériques, si nous pouvons porter une voix dans cette majorité, c'est celle de la lutte contre les inégalités. Vous savez, pendant cette crise, il ne faut pas laisser de côté ce pourquoi nous avons été élus. Nous devions remettre le pays en mouvement. Nous sommes dans une séquence qui est très sanitaire, qui est très dure sur le plan économique et social. On a un certain nombre de lois sur le régalien qui font polémique, nous venons d'en parler. Il ne faut pas perdre de vue ce pourquoi nous sommes là, l'égalité des chances. Et avec cette crise Covid, qui a énormément touché, notamment la nouvelle génération, le président de la République a parlé aux jeunes hier, nous devons travailler sur l'accompagnement, le mentorat, l'emploi, le logement, toutes les nouvelles chances qu'il faut leur donner. Cette majorité, elle a pour ambition qu'on puisse se dire à nouveau que nos enfants vivront mieux que nous. C'est pas le cas de nos parents aujourd'hui. Donc ce travail-là, sur les grands champs sociaux, sur les grands champs écologiques, il faudra une grande loi sur la dépendance, il faudra une grande loi pour accompagner les jeunes, leur redonner des chances. Je n'aime pas parler de discrimination positive, mais au fond, la génération de mes enfants qui ont 20 ans aujourd'hui, elle a probablement besoin d'un soutien plus important encore que celle des générations d'avant pour arriver au monde.
Allez, un dernier mot sur les régionales, Patrick Mignola, 2021. Est-ce qu'elles doivent être reportées, ces élections ?
Oui, il faut les reporter probablement au mois de juin, parce qu'il ne s'agirait pas de tomber dans la même situation qu'était celle des élections municipales l'an dernier, vous vous en rappelez.
Avec un premier tour et un second tour 3 mois après.
Voilà, on a eu des oppositions qui se sont roulées par terre des jours entiers pour nous expliquer qu'il fallait tenir les élections et qui ensuite nous ont reproché qu'elles se soient tenues. Bon, aujourd'hui, on doit prendre une responsabilité collective, c'est celle de reporter ces élections. Si au mois de juin, comme on peut l'espérer, la situation sanitaire a été maîtrisée, qu'on a pu développer une politique vaccinale, qu'on a rassuré les Français, qu'on a repris une vie normale, il faut qu'on reprenne une vie démocratique normale.
Alors, des régionales reportées avec un vote par correspondance, comme aux États-Unis, c'est ce que souhaite François Bayrou. Quel en serait l'avantage? Quel en serait l'intérêt?
Vous savez, on n'a pas tiré toutes les conséquences du deuxième tour des élections municipales. Parce qu'au fond, au premier tour, effectivement, on était en pleine crise de confinement, chacun était saisi et pouvait avoir peur. Mais au deuxième tour, il y a eu 35-40% de participation dans une élection qui pourtant passionne les Français. Nous avons une crise de la participation démocratique. Et il faut que cette majorité, qui s'était engagée à réformer la Constitution, à réformer le Parlement, qui n'a pas pu le faire, pour toutes les raisons qu'on sait, avec ces crises qui se sont empilées les unes sur les autres, progresse au moins sur les meilleurs moyens opérationnels pour faciliter le vote des Français. Dans une société mobile, avec beaucoup d'étudiants, avec beaucoup de mobilité professionnelle, le vote à distance, le vote électronique, le vote par correspondance doit être développé et donc nous travaillons en ce moment même avec nos collègues de La République En Marche à ce que nous pourrions expérimenter dès le mois de juin prochain.
Et ce vote par correspondance que souhaite le Modem, a priori l'exécutif n'y est pas forcément favorable pour l'instant. On en reparlera. Merci beaucoup.
Il arrive parfois au Modem de remporter ses arbitrages.
Eh bien je vous le souhaite pour votre parti, pourquoi pas. Merci Patrick Mignola et bon congrès à distance aujourd'hui avec deux discours attendus de votre leader François Bayrou. Merci beaucoup et bonne journée.
Merci à vous.